Les chevaux fantômes, Karen Blixen.
Partie 1 sur 2.
Dans la grande maison, une enfant malade était couchée. Pendant quelque temps, sa santé s'était améliorée, puis elle fit une rechute soudaine et, à partir de ce moment, tout se passa comme si elle refusait de guérir. Le médecin réputé qu'on avait fait venir de la ville déclara qu'elle n'était plus malade et qu'elle n'avait qu'à se lever. Mais la petite fille ne bougeait pas de son lit où elle restait allongée, molle et apathique comme une poupée de chiffon. Quand on lui parlait, elle gardait les yeux fermés, mais lorsqu'elle avait l'impression que personne ne l'observait, elle les ouvrait et regardait droit devant elle, fixement et tristement. Parfois, de grosses larmes glissaient sous ses longs cils. Elle refusait de manger et de parler, et quand ses nurses essayaient de l'encourager à se lever, elle pleurait et s'écriait que ses jambes lui faisaient mal. L'enfant avait 6 ans et se prénommait Oenone, mais on l'appelait Noni. C'était une belle petite fille aux yeux bleus et à l'abondante chevelure brune. Elle était enfant unique et avait toujours été gâtée. Son petit lit de malade était entouré de jouets magnifiques. La maison dans laquelle elle était couchée datait d'il y a 200 ans. C'était une demeure de couleur grise et de belle apparence au milieu d'un vaste parc. Elle appartenait à la même famille depuis de nombreuses générations et avait fait l'objet de bien de récits étranges et romanesques. On racontait, par exemple, que, dans le salon de cette maison, un père avait joué sa fille unique au pharaon et l'avait perdue. Et que dans le hall avait eu lieu un duel dont l'issue avait été fatale. Et encore, qu'un siècle auparavant, la jeune maîtresse de maison avait abandonné son mari et s'était enfuie avec le palefrenier, emportant avec elle tous les bijoux de famille. La mère de Noni, qui avait hérité cette maison d'une vieille tante, avait pris grand plaisir à la moderniser avec l'aide de son mari. Chacune des chambres disposait maintenant d'un poste de radio et les anciennes écuries avaient été transformées en superbes garages. Le docteur déclara à la mère de Noni : « Chère madame, nous avons affaire à un cas rare. Nous assistons à un choix délibéré entre la vie et la mort et c'est une enfant de 6 ans qui va faire ce choix. Et dites-vous bien que Noni a une volonté étonnante. »
« Que voulez-vous dire, docteur ?» demanda la mère.
« Le monde d'un enfant, reprit le médecin, tourne en général autour d'une seule personnalité particulièrement magnétique. Que ce soit une jeune maman très admirée n'a rien que de naturel. Depuis 3 semaines, Noni vous a eu tout à elle. Et maintenant, elle ne veut pas mettre un terme à cette agréable situation. » Elle tient à être malade afin que vous vous inquiétiez à son sujet. Peut-être voudra-t-elle mourir pour que vous la regrettiez.
« Mais que dois-je faire ? » s'exclama la jolie jeune femme.
« Et, ajouta-t-elle, après un instant les yeux remplis de larmes,
« comment se fait-il que nous représentions une malédiction pour ceux que nous aimons ?»«
Il faut que vous partiez, » dit le docteur. Et que Noni comprenne que vous ne reviendrez que lorsqu'elle sera parfaitement rétablie, et qu'à ce moment-là, vous resterez ensemble pour de bon. Votre époux a fait allusion à un voyage de 15 jours à travers la France. Je vous conseille de partir dès demain. »
La mère de Noni regarda le médecin, puis elle laissa errer son regard au loin par la fenêtre.
« Vous laissez votre enfant d'excellentes mains, » reprit le docteur. «
Miss Anderson est sérieuse et sûre. Miss Brown est une infirmière diplômée et votre petite bonne d'enfant suédoise est complètement dévouée à sa tâche. Quant à moi, je passerai tous les jours.
Peut-être, en effet, fit la mère lentement. Serait-il bon de nous éloigner un peu ?
Nous allons nous engager tous les quatre à parler de vous à Noni tous les jours, reprit le docteur, et à lui répéter que plus vite elle guérira, plus tôt vous lui reviendrez. Notre petite obstinée devra alors faire usage de sa concentration, non pas pour mourir, mais pour guérir.
Mon frère arrive demain de Paris, dit la mère. Je lui ai télégraphié pour lui demander de venir.
Votre frère le peintre ? Demanda le médecin. Ce jeune homme qui fait des dessins si amusants pour Noni ?
C'est précisément l'homme de la situation. Il fera tous les jours à Noni la description de votre voyage et pourra même lui en fournir les illustrations.
C'est ainsi que la maman de Noni partit pour la France avec son mari dans leur nouvelle grosse automobile. Elle croisa par hasard son frère au port d'embarquement. Ils déjeunèrent ensemble à l'hôtel et, tandis que Peter, son mari, allait jeter un coup d'œil sur sa voiture, le frère et la sœur causèrent longuement en prenant le café. Ils étaient jumeaux et se ressemblaient beaucoup, de sorte que leurs amis les avaient surnommés Viola et Sébastien. Ils s'étaient toujours parfaitement bien entendus. Cédric avait étonné sa famille d'abord par son désir de devenir peintre et ensuite par le succès relatif qu'il s'était taillé dans ce métier. Il vivait à Paris, au milieu d'un groupe d'artistes dont il pensait grand bien, tout en considérant avec modestie sa propre production. C'était un agréable jeune homme, aux manières douces, qui jouissait de l'équilibre psychologique propre aux gens dont la famille vit depuis des générations dans une situation financière stable, qu'elle soit indifféremment excellente ou misérable. Annabelle expliqua à son frère que le monde d'un enfant tournait autour d'une personnalité particulièrement magnétique et qu'elle allait en France pour sauver la vie de Noni. Il fallait maintenant que Cédric parle d'elle à Noni à toute heure et sans sauter un jour, et qu'il lui répète que sa mère reviendrait dès qu'elle serait complètement rétablie. Il fallait enfin qu'il expédie à sa sœur des comptes rendus des progrès de la malade à un certain nombre d'adresses en France. Cédric promit de faire tout ce qu'elle demandait.
« Mais ce n'était pas pour cela que tu m'avais télégraphié, » ajouta-t-il.
« Non, en effet, » reconnut Annabelle. Elle marqua un temps d'arrêt, puis elle dit « J'avais besoin de tes conseils. » Elle avait déjà souvent fait appel à ses conseils.
« Je suis à ta disposition, » dit-il.
« C'est facile à dire, » dit Annabelle.
« Le fait est que Peter et moi, nous avons dépensé plus d'argent que nous n'en avons. C'est, je crois, ce qui s'appelle vivre au-dessus de ses moyens. »
« Vous ?» s'étonna Cédric.
« Pour l'amour du ciel, ne me brutalise pas, » dit Annabelle. « C'est terriblement pénible de vivre au-dessus de ses moyens. Je ne le supporte pas, et toi non plus, tu ne le supporterais sans doute pas. N'est-il pas vrai ?»«
Non, » dit Cédric, qui vivait à Paris très modestement et sans aucun luxe.
« Tu vois bien, » dit sa sœur. « Mais nous venons d'avoir un merveilleux coup de chance. » Peter a toujours souhaité travailler, et voilà que Sir Maurice Mendoza lui propose de le prendre comme associé dans sa société. C'est exactement ce qui conviendrait à Peter. Ne trouves-tu pas que c'est merveilleux ?
En effet, dit son frère.
Avoue que c'est merveilleux, insista sa sœur.
Et moi, dans tout cela ? Poursuivit-elle.
Oui, et toi ? Demanda-t-il.
« Oh, Cédric !» s'exclama-t-elle. « Ne fais donc pas l'imbécile. La vérité, c'est que Sir Maurice m'admire beaucoup. »«
Comme tout le monde ?» dit-il.
« Non, » dit-elle. « Pas comme tout le monde, Cédric. »«
Et Peter aime bien te voir admirer, » reprit-il.
« Non, » dit-elle. « Non, il pourrait bien ne pas aimer cela du tout s'il était au courant. »
Et toi, ma chérie, demanda-t-il, comment cela te plaît-il ?
Eh bien, Cédric, dit-elle, voici comment les choses se présentent. J'aime Peter, cela fait 7 ans que je l'aime, de sorte que j'ai un peu l'impression de le connaître par cœur. Sir Maurice, je ne le connais pas du tout. C'est un être mystérieux, sa réputation te l'aura fait deviner. Il n'est pas simplement riche, il l'est fabuleusement, comme un personnage de conte de fées. C'est la caverne d'Aladin, des rubis gros comme des cerises, des saphirs comme des grains de raisin. Cela me rappelle nos vieilles histoires de famille, car Sir Maurice connaît si bien les pierres précieuses. Comme j'aurais aimé que notre arrière-arrière-arrière-grand-mère Annabelle n'ait pas emporté les bijoux de famille quand elle a fait sa fugue avec le palefrenier.
Oui, dit lentement Cédric. Ces histoires d'amour romanesque entraînent en général quelques ennuis.
La veille du jour où Noni est tombée malade, dit Annabelle, nous avons dîné avec lui et il nous a montré un gros rubis qu'il avait acheté en Hollande. Il nous a demandé s'il pouvait le faire monter en bracelet et me l'offrir lorsque Peter et lui seraient parvenus à un accord. Ce serait, a-t-il dit, un sceau rouge pour sceller notre entente. Après cela, Noni est tombée malade et je ne l'ai pas revue. Nous avons devant nous ces 2 semaines de voyage en France pour nous décider. Voilà. Que me conseilles-tu de faire ?
Peux-tu m'accorder à moi aussi ces 2 semaines de réflexion ? Demanda son frère.
Bien sûr, répondit-elle.
À ce moment-là, Peter revint vers eux et ils changèrent de conversation.
Ce qu'il y a de très étrange, dit Annabelle, c'est que pendant toute sa maladie, Noni n'a parlé que de chevaux, de courses et de chasse. Pourtant, elle n'a pour ainsi dire jamais vu de chevaux de sa vie. Quand elle s'est mise à leur témoigner tant d'intérêt, Peter lui a acheté un jouet mécanique superbe qui avait tout du vrai cheval, mais cela ne lui a fait aucun plaisir.
Ils se séparèrent.
Cédric se réjouissait de ses vacances, car il voulait réfléchir à un grand tableau qu'il venait d'entreprendre et il était heureux de se retrouver seul. Il n'avait jamais séjourné dans la maison de sa sœur en son absence. Cette fois, il disposait du temps et du calme nécessaires pour la parcourir à sa guise et s'en imprégner. Et elle l'impressionnait, comme s'il ne l'avait encore jamais vue. « Si cette maison avait été à moi, se disait-il, je n'y aurais pas touché, je l'aurais laissée telle qu'elle. » Il monta dans la chambre de Noni. Sa petite nièce était encore plus jolie que le souvenir qu'il en avait gardé. Mais pourquoi sur ce visage de porcelaine, cette expression sévère et hagarde de désespoir ? Obéissant aux instructions qu'il avait reçues, il parla à Noni de sa mère, décrivit le voyage qu'elle était en train de faire et illustra ses descriptions de dessins appropriés. Noni écouta son récit sans témoigner le moindre intérêt et jeta à peine un coup d'œil sur les dessins. Le cheval mécanique était installé à côté de son lit. Il exprima son admiration pour ce bel objet et le visage de la petite fille en devint plus tragique encore. Pour peu que j'aie le moindre talent, se dit-il, je devrais être capable de remettre sur pied ce joli portrait d'enfant. Et il demanda : À quoi allons-nous jouer, Noni, quand tu te seras levée ?
Pour la première fois, elle lui répondit, en déclarant, après un silence :
Nous ne pouvons pas jouer, toi et moi.
Il réfléchit et reprit : Non, pas toi et moi, mais qui donc pourrait jouer ?
Billy,
répondit Noni. Il ne voula pas insister et n'ajouta rien. Le docteur arriva, examina l'enfant et demanda si elle s'était levée. Lorsque la nurse secoua la tête, il lui dit que cela devenait grave et qu'il fallait absolument que la petite fille soit sur pied à sa prochaine visite. Après cela, il s'en alla. Cédric demanda à Noni : Tu te lèverais, n'est-ce pas, si tu pouvais aller jouer avec Billy ?
Oui,
dit Noni. Et pourquoi donc tu ne peux pas le faire ? Poursuivit-il. L'enfant lui jeta un regard noir d'indignation.
« Tu le sais bien !» s'écria-t-elle.
« Cela fait si longtemps que je vis à Paris, ma chérie, » dit-il, « que bien des choses se sont passées depuis mon départ. Ne peux-tu pas me donner quelques explications ?»«
Parce que Billy est mort !» dit Noni.
Cédric commençait à se dire qu'il passait autant de temps à s'occuper de Noni que de sa nouvelle toile. Il avait le sentiment que ni Miss Anderson ni Miss Brown ne lui seraient d'un grand secours. Il se tourna donc vers la petite bonne d'enfant suédoise qui s'appelait Ingrid. Elle touchait son cœur de peintre parce qu'elle avait l'air, sous sa coiffe blanche, d'un tableau hollandais. Il prit la peine d'attendre qu'elle soit seule et s'assit à côté d'elle. Ils discutèrent de la maladie de Noni et tombèrent d'accord sur le fait qu'il importait de la guérir avant le retour de sa mère. « Et à propos, » demanda Cédric, « qui donc est Billy ?» Ingrid pâlit, le regarda fixement et s'écria
« Oh, monsieur !»«
Voyez-vous, » poursuivit-il, « je ne peux rien faire pour vous aider à guérir Noni avant de savoir cela. »
« J'espérais que personne ne le saurait jamais, » dit Ingrid.
« Et pourquoi faut-il qu'on ne le sache jamais ? » demanda-t-il.
« Parce que Billy est mort, » répondit Ingrid.
« C'est bien ce que j'avais déjà compris, » dit Cédric. « Et croyez-moi, j'en suis désolé, mais Billy doit représenter quelque chose de particulier pour Noni. Auriez-vous la gentillesse de me dire ce qu'il en est ? Je ne le répéterai à personne. »
Ingrid respira profondément. « Je vous en parlerai volontiers, » dit-elle. « Cela m'a rendue très malheureuse, monsieur. »
Là-dessus, gravement, en s'arrêtant de temps en temps pour le regarder bien en face, comme pour lui rappeler sa promesse, elle lui raconta ce qui suit. Billy était le petit-fils de la vieille Madame Peavy. Qui était cette dame ? La vieille Madame Peavy était la veuve du vieux cocher. Le vieux cocher habitait le petit logement installé au-dessus des écuries qui avait été transformé en garage. Après sa mort, sa veuve avait été autorisée à conserver l'appartement. Sans doute, M. Cédric n'avait-il jamais aperçu Madame Peavy. En effet, elle avait mal aux jambes et avait de la peine à grimper ses étages. Ingrid et elle avaient sympathisé parce que Madame Peavy était une véritable paysanne qui venait de la campagne exactement comme le père de la jeune Suédoise. De sorte que les deux femmes avaient en commun de nombreux points d'intérêt. « Cela a dû être fort agréable pour vous deux, » remarqua Cédric.
« En effet, monsieur, » dit Ingrid.
Madame Peavy avait un fils unique, qui travaillait dans une grande écurie de courses et qui avait eu plusieurs enfants d'un premier mariage. Mais sa femme était morte, il s'était remarié et sa nouvelle femme ne désirait pas se charger du plus jeune des enfants. La vieille Madame Peavy l'avait donc pris chez elle. Le frère aîné du petit garçon le lui avait amené. Il était palefrenier et fort sympathique. Cédric se demanda si ce palefrenier ne constituait pas l'un des points d'intérêt commun aux deux femmes. Le petit garçon avait ensuite vécu avec Madame Peavy au-dessus des anciennes écuries.
« C'était lui, Billy, monsieur, » dit Ingrid.
Billy avait 3 mois de moins que Noni. C'était un petit garçon beau et intelligent, mais il était sourd-muet. Parfois, quand Miss Anderson chargeait Ingrid d'emmener promener Noni, elles montaient toutes les deux au-dessus des écuries pour rendre visite à Madame Peavy. Ingrid s'asseyait pour lui faire quelques petits travaux de raccommodage, mais Noni et Billy s'éclipsaient et s'en allaient jouer dans la salle des harnais à côté de l'appartement de Madame Peavy.
« Mais il n'y avait pas de mal à cela, » observa Cédric.
Si, monsieur, expliqua Ingrid, car c'est Billy qui a donné la rougeole à Noni. Sur ses genoux, elle se tordait les mains de désespoir.
Et juste au moment où Noni commençait à aller mieux, Billy est mort. C'est lorsque Noni a appris la nouvelle qu'elle est retombée si malade.
Comment l'a-t-elle apprise ? Demanda Cédric. Elle l'avait apprise par Ingrid. Celle-ci était allée voir Madame Peavy, avait veillé et pleuré Billy avec elle, et à son retour, Noni lui avait demandé pourquoi elle avait pleuré. On avait appelé le docteur en pleine nuit. Lorsque Noni s'était mise à délirer, Ingrid avait eu peur qu'elle ne prononce le nom de Billy, que la vérité ne soit ainsi découverte et que la vieille Madame Peavy ne soit mise à la porte. Mais Noni avait été loyale et n'avait rien dévoilé.
« Ma sœur m'a dit qu'elle parlait sans cesse de chevaux, » dit Cédric.
« Oui, c'était vrai. Elle parlait de chevaux. Dans la salle des harnais se trouvaient de très nombreuses images de chevaux, et Billy lui avait dit leur nom.
Comment pouvait-il faire cela, puisqu'il était sourd-muet ? Interrogea Cédric.
De toute évidence, Ingrid ne s'était jamais étonnée de ce fait, mais elle ne pouvait pas non plus l'expliquer. Noni et Billy avaient toujours tenu à jouer tout seuls dans la salle des harnais. Ils s'y enfermaient même à clé et ils jouaient sans faire le moindre bruit. Billy avait appris tout seul ou avec l'aide de quelqu'un à lire sur les lèvres. Mais elle supposait qu'il avait enseigné cet art à Noni.
En effet, il arrivait que Noni dise à Ingrid « Je vais te raconter quelque chose de merveilleux ». Après cela, elle se contentait de remuer les lèvres et faisait une grimace de moquerie quand Ingrid ne la comprenait pas. Parfois aussi, quand Ingrid la couchait, elle riait toute seule pendant un moment et puis elle lui racontait à voix basse que Billy et elle avaient de très beaux chevaux pour s'amuser. Après un silence, Cédric déclara
« Je crois que je vais parler de Billy à Noni. »«
Est-ce nécessaire, monsieur ?» demanda Ingrid.
« Je pense que oui, » dit Cédric. « Le docteur a dit à ma sœur qu'autour d'un enfant, il se trouve toujours quelqu'un de particulièrement fascinant, qui retenait son attention plus que toute autre personne. » Il se figurait que dans le cas de Noni, c'était sa mère qui jouait ce rôle. Mais je me rends compte à présent que c'était Billy.
Cédric adressait tous les jours une carte postale à sa sœur. Ce jour-là, il en reçut une qu'elle lui avait envoyée. Elle lui disait que la France était un pays merveilleux, qu'il était merveilleux de voyager avec Peter, qu'il serait merveilleux de retrouver Noni. Parfois aussi, elle aurait souhaité ne pas être obligée de rentrer. Elle embrassait Cédric. Cédric dit à Noni « À ta place, je me débarrasserai de ce cheval. » Ils jetèrent l'un et l'autre un regard de mépris sur le cheval mécanique installé à côté du lit.
Les choses qui ressemblent exactement à d'autres choses n'ont aucun intérêt, dit Cédric.
Noni le dévisagea, mais elle restait sur ses gardes et ne dit rien.
Tu sais, reprit-il, les seules choses réellement vraies sont celles que l'on fabrique soi-même et qui ne ressemblent à rien d'autre. Chez moi, à Paris, je fabrique des tas de choses réellement vraies. Des fleurs, des oiseaux, et aussi une dame qui se jette à l'eau parce qu'elle est malheureuse. Toutes ces choses sentent bon, chantent bien, et se jettent parfaitement bien à l'eau.
Après un silence, Noni demanda « Avec quoi les fais-tu ?»«
En général, dit-il, je trouve ce qu'il faut pour les faire, pas toi ?»
Un pâle petit sourire, le premier, éclaira le visage de la petite fille.
« Si, » dit-elle.
Il marqua une pause. « En ce qui concerne les chevaux, » dit-il alors, « les réellement vrais chevaux, je suppose que Billy savait réellement leur faire faire tout ce qu'il voulait. »
Noni le regarda dans les yeux. Et cela non plus, elle ne l'avait encore jamais fait. Son visage était grave et fier, mais sans hostilité.
« Billy savait m'expliquer tout ce qu'il faisait, »
dit-elle. Je le sais bien, lui dit son oncle. C'est parce qu'il ne pouvait pas parler comme les autres garçons. Elle allait dire autre chose, mais se ravisa et serra les lèvres une fois de plus. « Eh bien, salut Noni, dit-il. Il faut que j'aille faire un tour avec la voiture que ta maman m'a laissée. Cela ne m'amuse pas du tout parce que quand on se met à penser aux chevaux de Billy, la voiture vous fait l'effet de se déplacer à une allure de tortue.
« Tu reviendras, n'est-ce pas, oncle Cédric ?» demanda Noni.
Il s'en fut en pensant. Le progrès est sensible. Il est difficile d'y voir clair, mais le progrès est certain. Que le Seigneur m'assiste dans le choix des pinceaux et des tubes de peinture qui conviendront. Le lendemain, il réussit à jouer avec Noni au jeu de dames sur le couvre-pied. Tandis qu'il réfléchissait à son prochain coup, elle lui demanda
« Où les mets-tu, tes fleurs, tes oiseaux et la dame ?»«
Je les mets contre le mur, » répondit-il. « Ainsi, personne ne peut les voir, mais ils sont là tout le temps, bien sûr. »
Il eut alors le sentiment que si Noni ne disait rien, ce n'était pas cette fois faute de sympathie, mais simplement faute de mots à l'aide desquels exprimer leur nouvelle entente et le bonheur qu'elle leur procurait à tous deux. Elle dit enfin
« Nos chevaux à nous sont dans leur stall, dans l'écurie. »
« Comme la plupart des beaux chevaux, » dit-il.
Lorsqu'elle eut gagné la partie et qu'il commençait à ranger les pions dans la boîte, Noni demanda tout à coup
« Veux-tu que je te montre mes chevaux ?» « Oncle Cédric ?»«
Je ne demande pas mieux, » dit-il. « J'ai beaucoup pensé à eux. Ce n'est pas juste qu'il n'y ait plus personne pour leur donner à boire ni pour les panser maintenant que Billy n'est plus là et que tu n'as pas les jambes assez solides pour t'en occuper toi-même. »«
Mais si, elles sont solides, » répliqua Noni en se relevant dans son lit.
« Pour travailler dans une écurie, il faut avoir de bonnes jambes, » dit Cédric. Peut-être pourras-tu y aller demain.
Non, dit Noni, aujourd'hui, après le déjeuner.
Elle regarda autour d'elle et ajouta.
Il ne faut pas que Miss Anderson et Miss Brown le sachent.
Non, reconnut-il.
Ingrid pourra m'habiller, dit l'enfant.
Ingrid t'habillera, dit-il. Et je dirai à Miss Anderson et à Miss Brown que tu m'emmènes faire un tour en voiture. »
Debout dans sa petite chemise de nuit de flanelle, Noni avait son visage au niveau de celui de Cédric. Que ses yeux étaient beaux, qu'elle était jolie sous l'arc délicat de ses sourcils et l'abondante masse de ses cheveux. Et quelle force étrange, tout d'un coup, se dégageait de sa frêle silhouette. Elle ajouta, lentement et solennellement,
« Tu ne le diras jamais, jamais !»
Il répéta lentement et solennellement, « Je ne le dirai jamais, jamais !» Elle le regarda bien en face, de ses yeux clairs, avec gravité et insistance. Au cours de sa vie si brève, elle avait déjà connu des déceptions et des catastrophes. Dans l'affaire en question, elle ne pouvait pas prendre de risques. Il fouilla dans sa mémoire pour y trouver un serment qui le liait inconditionnellement. « Si jamais, déclara-t-il, je dis un mot au sujet des chevaux, des stalles ou des écuries ou à qui que ce soit, puissais-je ne plus jamais peindre un bon tableau de ma vie ? » Il discuta le projet avec sa complice, en arrêtant tous les détails. Il fut convenu que Miss Anderson prendrait son jour de congé et qu'Ingrid s'occuperait de Miss Brown.